Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on se retrouve à présent pour le grand débat du Club des Idées. Ce soir, c'est au terrorisme qu'on a décidé de s'intéresser. Faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison? 43 cette année, ils seront une soixantaine en 2021. Et cela alors que se tient, vous le savez, en ce moment le procès Charlie Hebdo et qu'on parle de plus en plus de séparatisme islamiste. Alors ces djihadistes représentent-ils toujours un danger pour la société? Comment sont-ils surveillés et par qui? On en parle ce soir avec Jean-Charles Brizard, président du Centre d'analyse du terrorisme. Bonsoir. On en parle également avec Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, SNMFO et ancienne juge antiterroriste. Bonsoir. Et on en parle avec Hugo Micheron, chercheur à la chaire Moyen-Orient-Méditerranée, à l'École Normale Supérieure, enseignant Sciences Po, Princeton et auteur de Le djihadisme français, quartier Syrie, prison. C'est aux éditions Gallimard et c'est sorti en janvier 2020. Vous avez d'ailleurs pour ce livre, Hugo Micheron, rencontré, c'est un travail assez unique, des dizaines de djihadistes, 80 je crois, incarcérés dans des prisons françaises, mis en cause pour des faits de terrorisme. Et quelle est votre conviction d'abord sur ces condamnés ou ces prévenus pour dire les choses clairement? Représentent-ils encore un danger pour la société à leur sortie de prison?
Alors c'est très dur en tant que chercheur de me prononcer sur des cas individuels. Ce qui est certain, c'est que le djihadisme en tant que mouvement militant, collectif, n'a pas été vaincu, n'a pas disparu, notamment également sur le plan idéologique. Et même de ce point de vue-là, le passage par la prison a tendance à renforcer les rangs. Alors non pas que sur les 500 djihadistes qui sont à l'heure actuelle encore derrière les barreaux, il n'y en ait pas qui ne vont pas être réinsérés, ça c'est tout à fait possible.
C'est vrai
possible.
Que vous dites, dans votre livre, vous dites « la prison, c'est l'ENA du djihad ».
Oui, en fait, ce que je voulais attirer l'attention sur le fait que les djihadistes, en fait, le djihadiste ne finit pas sa course en prison. C'est un espace dans lequel ils vont, pour certains, chercher à prolonger leur militantisme, pour d'autres, chercher à travers le temps dont ils disposent à s'éduquer, à s'endoctriner davantage, mais aussi parfois à lire, et puis également à convertir. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la relation qui peut exister entre des djihadistes qui sont passés par la Syrie ou pas, qui ont été parfois condamnés en France pour leur participation à des attentats ou à de la propagande, et qui à un moment donné...
Ce ne sont pas tous des gens, c'est la question que je voulais poser aussi à Jean-Charles Brizard, ce ne sont pas tous des gens qui ont du sang sur les mains. C'est quoi le pédigré ou le profil de ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui pour appartenance au djihadisme ou au terrorisme?
Il y a plusieurs degrés d'engagement dans le djihadisme. On le voit très bien à l'heure actuelle avec le procès de Charlie Hebdo. Ceux qui sont accusés dans le box, ce ne sont pas les coupables des tueries de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher ou de Montrouge. En revanche, ce sont des logisticiens, en tout cas des personnes accusées d'avoir été des logisticiens, d'avoir logé, d'avoir fourni des voitures ou des armes. Donc le djihadisme, c'est tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de second couteau dans le djihadisme, et ça, c'est très important. Il y a différents niveaux d'implication, et ce qui rend aussi cette matière assez malléable et donc parfois dure à approcher. C'est pour ça que la seule approche, la surindividualisation de l'approche des djihadistes nous fait un peu manquer le fait que c'est une mouvance qui a plutôt tendance à s'élargir. Il y avait quelques dizaines de djihadistes dans les années 90, il y en a 500 derrière les barreaux aujourd'hui, c'est donc un mouvement qui a pris de l'ampleur ces dernières années. Évidemment.
Alors, même question Béatrice Brugère, pour fixer un peu l'enjeu du débat. À votre avis, et au gré des informations que vous avez, sont-ils encore dangereux ces 43 condamnés qui vont sortir cette année de prison?
Oui, alors, pour compléter ce que vient de dire...
Ce sont des gens qui quand même, ont fait pour certains 7 ans de prison. Hein, ce sont des gens qui ont purgé leur peine, qui ont fait le maximum.
Pour répondre à votre question et compléter ce que vient de dire Hugo Micheron, on est quand même sur une criminalité très particulière. C'est pour ça que la question de la dangerosité, elle est pertinente, parce que dessous, il y a un substrat idéologique avec une motivation très politique, politique au sens large, et un rejet d'un modèle. Donc on n'est pas sur une criminalité classique, si vous voulez, passionnelle, ou d'appropriation des biens, etc. Donc en fait, la difficulté, c'est que vous avez... une évaluation de la dangerosité qui est très compliquée à faire dans la mesure où, en plus, dans cette idéologie, vous le savez, il y a la dissimulation qui est préconisée. Mais ce que je voulais simplement dire sur le chiffre et la masse, parce que c'est ça aussi qui intéresse vos auditeurs, attention, il y a ceux qui sont passés à l'acte et qui sont identifiés comme terroristes, hein, c'est ceux dont vous avez cité et dont Hugo Micheron vient de parler, mais il y a ceux, et c'est parce que c'est une idéologie, qui sont en train de se radicaliser. Et là, le nombre...
Oui, qui sont incarcérés pour des actes de droit commun.
Exactement.
Et qui sont en train de se...
Et puis,
donc c'est plus de 500, là.
Exactement. Et puis, il y a aussi 8000 personnes inscrites à ce qu'on appelle le fichier des personnes radicalisées, qui fait que la question de la masse et de la quantité est un vrai sujet. C'est-à-dire que là où on avait quelques terroristes, maintenant, aujourd'hui, on a un vrai sujet sur la quantité qui est cumulée avec la dangerosité.
Alors justement, est-ce qu'on a une idée de ce chiffre et de ce volume, Jean-Charles Brizard, très clairement, combien de personnes aujourd'hui incarcérées qui sont radicalisées? 500 pour terrorisme, mais combien sont radicalisées?
510, c'est-à-dire détenus pour fait de terrorisme islamique, islamiste. 200, enfin la moitié déjà condamnés, l'autre moitié en détention provisoire, puis un peu plus de 700 individus effectivement détenus
plus de 700,
pour
effet
de droit commun susceptibles d'être, ou en voie de radicalisation. Et c'est vrai que ce double à l'enjeu individuel dont vous avez parlé effectivement, ou de groupe plutôt, l'enjeu de la prison elle-même si vous voulez. La prison est devenue un lieu propice organisationnel pour ces individus aujourd'hui et depuis ces dernières années pour organiser des projets d'attentats, des attentats eux-mêmes. Hein. Il y a eu 9 incidents terroristes depuis 2 ans dans les prisons françaises. Ça veut dire que ça devient de plus en plus un foyer terroriste.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec toujours le grand débat du Club des idées, ce soir on s'intéresse aux terroristes. Faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison? Je le disais, 43 cette année, ils seront une 60aine en 2021. Comment sont-ils surveillés? Sont-ils toujours autant radicalisés? La réponse est oui pour Meyer Habib, le député UDI, porte-parole du parti sur la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l'encontre des terroristes sortant de prison. On l'écoute et on en débat après avec nos invités.
Je voudrais rappeler que Merah Kouachi Kolibali Kermiche, l'un des assassins du père Hamel, tous sont passés avant par la casse-prison. On est dans un domaine où le risque de récidive est très élevé. Je comparerais cela à des criminels en série.
Voilà, Jean-Charles Brizard, vous êtes président du Centre d'analyse du terrorisme. Est-ce qu'on a justement un indicateur de récidive pour ces personnes qui sont condamnées pour appartenance ou en lien avec le terrorisme?
Alors, direz-vous, dans ce pays, il n'y avait pas jusqu'à présent de personne n'avait pensé calculer un taux de récidive en matière terroriste. En tout cas, au niveau du parquet, il n'y avait pas, de chiffre qui existait. On a essayé de le faire en se concentrant principalement sur la catégorie de détenus qui nous paraît la plus importante et la plus dangereuse, ce sont les revenants. Pourquoi? Parce que d'expérience...
Les revenants, ce sont ceux qui reviennent
de
Syrie,
d'Irak, zone d'opération, de groupements terroristes, comme on dit. Et pourquoi ce sont les plus dangereux? Parce que l'expérience nous a montré dans le passé que, précisément, ces individus, ceux qui ont été au contact d'une organisation terroriste, ceux qui ont été formés au maniement des armes explosives, à leur retour, effectivement, une année, 2 années, ou parfois 10 années plus tard, pouvaient à nouveau se réengager, c'est-à-dire être condamnés éventuellement pour des faits de terrorisme qui peuvent être à la fois du soutien logistique, matériel,
financier.
Et combien
alors le font?
Alors, sur 200 individus dont on a pu documenter le séjour, soit en Afghanistan, soit en Irak dans les années 2000, soit en Bosnie dans les années 90, sur ces 200 individus, 60% d'entre eux, après leur retour sur le territoire national, ont été condamnés pour des faits de terrorisme distincts de leur seul séjour sur place. C'est-à-dire 60% de ces individus
60%.
Ont récidivé très concrètement.
Alors,
sur des faits de terrorisme.
Il y a un exemple aussi symbolique. Hein, en janvier dernier, est sorti de prison le premier djihadiste français parti combattre en Syrie. On ne va pas donner son nom de famille, il s'appelle Flavien. Il est sorti, dit-on, aussi radicalisé qu'en entrant en 2013. Il était pourtant à l'isolement, il est toujours radicalisé. Il a fait 7 ans en ferme, c'était le maximum. Que peut-on faire de plus, Hugo Micheron, pour des individus comme ça?
En fait, la question...
Vous l'avez rencontré d'abord
J'ai son frère. Et puis,
son frère.
Lui, à vrai dire, ça aurait dû être le premier que je devais rencontrer, puis il a refusé au dernier moment.
Donc, mais son frère aussi est radicalisé.
Son frère est également parti en Syrie, et ils ont une histoire commune, comme on voit beaucoup dans le djihadisme. C'est souvent des fratries, quand c'est pas des fratries...
Et comment les déradicaliser, je sais que le mot fait un peu débat, mais les récupérer, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, une fois qu'ils sortent de prison? Ils ont fait leur peine, on sait qu'ils sont dangereux. Comment les surveiller?
En fait, selon moi, la question qui se pose quand même, c'est presque une question philosophique. À un moment donné, c'est comment est-ce qu'on punit un djihadiste? C'est-à-dire que pour l'ensemble de la société, aller en prison, c'est la punition suprême. C'est la privation des libertés. C'est un temps extrêmement délicat, loin de ce qu'on aime, avec en plus la vie carcérale qui est souvent très très dure. Pour un djihadiste, ce qu'on remarque, c'est que, pas tous encore une fois, mais dans la grande majorité des cas, le passage par la prison est une étape dans une carrière plus large. Un moment où ils vont, on le voit hein, vraiment dans les grands profils djihadistes, les Kouachi, dont le procès de Charlie Hebdo, enfin des attentats contre Charlie Hebdo, en ce moment, il est question que de ça. On voit très bien qu'à un moment donné, Chérif Kouachi s'est affirmé en prison. Mais avant lui, dans les années 90, c'était la même chose pour Khaled Kelkal, l'auteur des attentats de 1995 à Paris. Et donc, en fait, il y a vraiment cette question, est-ce qu'une peine de prison à l'heure actuelle, est-ce qui punit le mieux un djihadiste? Elle est ouverte. Je ne dis pas qu'il faut trancher la question, mais c'est, il faut comprendre...
Mais quelle est votre conviction,
Ma conviction, c'est que l'utilisation... Ils utilisent le temps derrière les barreaux, ils sont extrêmement adaptés
mais alors,
à la prise en charge carcérale.
Quelle alternative?
Et eh bien, ça, j'en ai pas la réponse, parce que je ne suis pas spécialiste de politique publique. En revanche, ce que je pense, c'est qu'il faut absolument comprendre l'usage qu'ils font de la prison. Parce que peut-être que la prison est le bon endroit, mais dans ce cas-là, il faut comprendre comment ils ont exploité leur temps derrière les barreaux.
Mais vous dites c'est une étape dans la carrière du djihad.
Dans
la
ce cas-là, je pense qu'il faut remettre en partie en question les analyses seulement individuelles des djihadistes derrière les barreaux pour comprendre la dimension collective et revoir l'approche simplement sous l'angle de la dangerosité. Oui. Parce que des djihadistes peuvent être extrêmement dangereux sans poser de bombe, tout simplement en recrutant derrière les barreaux. Et donc, c'est vraiment cette dimension idéologique qui doit également rentrer en compte.
Alors, même question, Béatrice Brugère, vous êtes notamment ancienne juge antiterroriste. Quelle réponse face à ces individus qui, une fois sortis de prison, sont toujours aussi dangereux qu'au moment où ils y sont rentrés et parfois même plus radicalisés encore?
Bon, la question est compliquée, c'est vrai que personne n'a vraiment la réponse. Ceci dit, on peut avoir quand même des intuitions.
Et je suis tout à fait d'accord.
Juste pour dire, et là je rejoins ce qui a été dit, moi j'avais jugé par exemple les frères Klein hein, en collégialité. On voit très bien que ces filières, c'est comme des poupées russes, on les retrouve, ils se repositionnent, ils se perfectionnent. Donc c'est un vrai problème parce que, encore une fois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur une violence très particulière, très idéologique, et que finalement la déradicalisation, ce que vous avez posé au départ, n'est pas du tout une évidence. Donc il faut peut-être qu'on change notre paradigme, et là je rejoins le questionnement d'Hugo Micheron qui est très intéressant. Déjà, rien que poser la question, c'est déjà commencer à y répondre, parce que tout le monde ne la pose pas comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on est capable aujourd'hui de changer dans notre modèle et notre appréhension de cette dangerosité. Alors moi, je simplement...
Mais la rétention de sûreté,
justement,
pour parler clairement.
Alors, justement,
vous êtes pour ou vous êtes contre?
Sur la prison, en tout cas, je peux déjà donner une piste qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, je pense qu'il faut aller sur des établissements spécifiques, c'est-à-dire arrêter, pour ceux qu'on a bien identifiés comme des gens très dangereux, de les mélanger avec d'autres personnes. Parce qu'ils continuent, et c'est tout à fait vrai, leur endoctrinement et leur prosélytisme. Première chose. Donc déjà, éviter la contamination au maximum. Et après, la deuxième question, et ça c'est une question de responsabilité à la fois de politique publique, mais aussi judiciaire, c'est prendre toute la mesure de la dangerosité au moment du prononcé de la peine. C'est-à-dire qu'en effet, il faut arrêter de les regarder comme des gens déséquilibrés, fragiles, etc. Il y en a, mais pour ceux qui sont vraiment dangereux, il faut être, j'allais dire, responsable par rapport aux peines que l'on prononce. Ça, c'est une réalité. Et après, la dernière question, parce qu'ils ressortent, en effet, c'est qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place derrière, non pas pour les rééduquer, mais pour éviter qu'ils réitèrent. C'est ça la façon de voir les choses, à mon avis. En tout cas, la plus lucide par rapport à ce qu'ils représentent en tant que menace.
Et on en parlera dans quelques secondes sur la surveillance des services de renseignement, la DGSI notamment, avec vous, Jean-Charles Brizard, vous connaissez bien ces questions de sécurité. Vous nous donnerez votre point de vue sur la surveillance de ces individus. A tout de suite.
Et maintenant, comme chaque mardi, parlons investissement responsable.
Et je suis en ligne avec Bertrand Conchon, directeur adjoint des partenariats distribution pour une société de gestion. Vous commercialisez des produits de placement avec le label ISR auprès de conseillers financiers qui, à leur tour, les proposent à leurs clients particuliers. Vous pouvez nous dire pourquoi?
Parce que ces clients particuliers aspirent de plus en plus à investir utile et à prendre en compte l'intérêt des générations futures. Et en ce sens-là, le label ISR est vraiment un marqueur fort parce que ça leur permet d'identifier facilement ces solutions d'investissement qui vont intégrer les enjeux d'avenir pendant notre société. Ce sont les fameux critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance dont on entend de plus en plus parler.
Et vous avez un exemple de critères ESG intégrés par ces fonds ISR?
Le climat, par exemple, est un enjeu majeur pour lequel il est urgent d'agir. En finançant des entreprises qui cherchent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou qui ont un chiffre d'affaires vert, l'investisseur agit de manière très concrète pour soutenir des solutions d'avenir en plus de poursuivre un objectif de performance financière.
Pour en savoir plus sur le label ISR, parlez-en avec votre conseiller.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelles mains? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Votre BMW a plus de 6 ans ? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 octobre, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir conditions et réseaux participants sur bmw.fr.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on se retrouve toujours avec le grand débat du Club des Idées. Ce soir, on parle de terrorisme. Faut-il avoir peur des anciens djihadistes qui sortent en ce moment de prison, 43 cette année, une soixantaine en 2021. On en parle notamment avec Jean-Charles Brizard, qui est président du Centre d'analyse du terrorisme. Alors, on se posait cette question de l'endoctrinement en prison. On a constaté que c'était un vrai phénomène et un vrai problème. Et une fois que ces individus sortent de prison, 43, je le disais cette année, 43, c'est beaucoup. Beaucoup sortent, ils sont toujours aussi dangereux, aussi radicalisés en tout cas. Comment est-ce qu'on les surveille et est-ce qu'on a le moyen de les surveiller? Moi, j'ai toujours entendu dire par la DGSI, les services intérieurs, qu'on n'avait pas les moyens de les surveiller H24 parce que ça mobilise trop de personnes et qu'en France, il y a aujourd'hui 8000 personnes qui sont fichées S et qui sont suivies pour radicalisation et que voilà, on n'a pas les moyens de les surveiller.
Plusieurs choses. D'abord, une chose que je voudrais dire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure par Hugo Micheron. Il faut bien prendre conscience d'une chose, ça a été très bien dit par Hugo Micheron, on est dans une temporalité totalement différente avec les djihadistes. Les djihadistes parient sur le temps long. On l'a vu, Charlie Hebdo, les premières menaces il y a 4 ans auparavant, et puis ces attentats perpétrés en 2015.
Donc pour vous, la menace, elle est encore hyper présente aujourd'hui en France ?
Mais bien évidemment.
Parce qu'on l'a un peu oublié.
Non, la menace est bien sûr là. Si on a pu affaiblir le territoire et les capacités opérationnelles de notamment de Daesh sur zone en Syrie, en Irak, on n'a pas pu circonscrire l'idéologie. C'est encore une fois, ces individus sont imprégnés par cette idéologie. Et on est face à ces individus. Donc la prison pour eux, c'est une phase transitoire, ça a été dit, une phase de réarmement idéologique, une phase où on met en place des réseaux, hein, une phase opérationnelle aussi pour certains. Et donc il faut tenir compte de ça, tenir compte aussi de la longévité de la menace à laquelle on va avoir à faire face. C'est-à-dire de nombreuses années. Et par rapport à ça, effectivement, les dispositifs qui existent aujourd'hui en termes de suivi de ces individus, suivi administratif, hein, puisque les mesures de suivi judiciaire ont été censurées par le Conseil constitutionnel, donc suivi administratif, suivi des services, est limité dans le temps. Ces dispositions sont limitées dans le temps. Et je crois que c'est une erreur, parce qu'il ne faut pas être tenu par une durée maximale. Il vaut mieux réévaluer périodiquement la situation de dangerosité de ces individus plutôt que d'avoir à cesser à un moment donné les mesures de surveillance.
C'est limité
un an, 6 mois, un an, ça dépend, mais pour les MICAS par exemple, c'est limité dans le temps.
C'est quoi les MICAS ?
Les MICAS, c'est les mesures individuelles de surveillance et de contrôle qui sont appliquées à ces individus en particulier.
Donc au bout d'un certain temps, on les débranche ?
Ah ben oui, de toute façon déjà, on a la chance de pouvoir les surveiller en post-carcéral parce qu'encore une fois, ils ont purgé leur peine. Hein, donc théoriquement, vis-à-vis de la justice, ils n'ont plus de compte à rendre.
Donc là, il y a un vrai danger aujourd'hui avec
qu'il y a un vrai danger parce qu'aujourd'hui, les mesures sont insuffisantes en termes administratifs. D'abord, elles ne sont pas suffisamment encadrées. Et c'est la raison pour laquelle la proposition de loi de la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale était bienvenue, parce qu'elle visait à replacer ces mesures dans un cadre judiciaire. Les mesures administratives, quelles sont-elles aujourd'hui ? C'est essentiellement des mesures électroniques de suivi. Pas se leurrer. Évidemment, vous avez raison de le dire, on n'a pas les moyens. Aucune démocratie n'a les moyens de suivre toutes les personnes considérées comme potentiellement dangereuses. Pas plus la France qu'une autre. Et de surcroît, je rajouterai une chose très importante, c'est que vous citez le chiffre des 8000 individus fichés au FSPRT, même ce fichier...
Pour radicalisation.
Oui, pour radicalisation à caractère terroriste, même ce fichier ne représente pas l'intégralité de la menace. Je rappelle très souvent que depuis Mera, 60% des individus qui ont frappé en France étaient inconnus des fichiers des services de renseignement. Et donc, même si on suivait une logique, comme certains le souhaitent, c'est-à-dire de surveiller tout le monde, ça ne serait pas encore suffisant pour prévenir, entraver, anticiper la menace.
La déradicalisation, Hugo Micheron, ça peut fonctionner ?
En fait, peut-être à l'échelle individuelle, c'est-à-dire sur les 500 djihadistes derrière les barreaux, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas au moins quelques-uns, voire plus, qui rentreront dans le rang. Mais si par ailleurs...
Mais vu l'enjeu n'est pas le sujet, c'est
mais
ça
Mais oui, parce que si pendant le même temps, vous en avez 700 chez les droits communs qui se radicalisent au djihadisme, la société française, elle est moins bien, si vous voulez, entre 2015 et 2020.
On a toujours un coup de retard.
En fait, c'est très important de comprendre cette question de la temporalité des séquences. Daesh, en 2015, était au sommet de ses capacités organisationnelles et logistiques dans l'Hexagone. Ça donne une série d'attentats pendant 2 ans. Désormais, Daesh a été vaincu au moins en partie au Levant, militairement, a perdu une bonne partie de ses réseaux en Europe. Du coup, les djihadistes ont plutôt tendance, si vous voulez, comme la marée s'est retirée, à jouer plutôt un profil bas. et donc ils vont s'investir dans d'autres activités que le terrorisme. Le terrorisme, ce n'est jamais qu'un moyen. Et parmi celles-ci, il y en a plein qui ne sont pas sanctionnables par la loi et qu'il faut pourtant observer. Ça va être du prosélytisme. Alors, l'organisation de séminaires.
Justement, pardon, je vous arrête, Hugo Micheron, parce que c'est une question fondamentale. Fondamentale. Est-ce que l'entrisme religieux et le séparatisme, dont on parle beaucoup en ce moment, est-ce que ça fait le terreau du terrorisme? Pour être clair, est-ce que demander des repas adaptés, interdire aux jeunes filles d'aller à la piscine, est-ce que ça participe à un embrigadement qui peut conduire au bout du bout au terrorisme?
Alors, de la façon dont est posée la question, la réponse est évidemment non, il n'y a pas de lien direct. En revanche, ce qu'il faut comprendre, c'est que les djihadistes seuls n'ont aucune capacité d'action. Ils doivent systématiquement se greffer à un conflit ou se greffer à d'autres mouvements, d'autres courants religieux du militantisme islamiste qui sont présents dans nos sociétés, parmi lesquels les salafistes, les frères musulmans. Ça définit un terreau. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant d'observer, parmi les djihadistes que j'ai rencontrés, la quasi-totalité était passée par ces mouvements-là. C'est-à-dire qu'il y a un engagement antérieur dans l'islamisme qui, pour certains, qu'ils vont considérer poursuivre en entrant dans le djihadisme. Et donc, il faut étudier, il faut rentrer dans cette boîte noire qui est extrêmement compliquée, mais il faut pouvoir documenter, objectifier ces dynamiques. Sinon, on ne va rien comprendre.
Oui. Béatrice Bogère, sur la même question, est-ce que le terreau du terrorisme trouve sa racine dans cet entrisme et dans cet islam politique? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent des salafistes, j'ai vu qu'ils étaient 40 000 recensés en France, on parle souvent des frères musulmans qui comptent 50 000 membres, mais on dit aussi que le salafisme est contre la violence, que les frères musulmans ne sont pas favorables à Daesh. Donc est-ce que les deux sont liés?
Je vais un peu reprendre ce que vient de dire Hugo Micheron, avec qui je suis d'accord. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'islam politique, c'est un projet politique de modification de nos valeurs occidentales. Et le terrorisme est un mode d'action pour ceux qui sont, j'allais dire, les plus convaincus, les plus acharnés et qui veulent vraiment agir tout de suite. Donc, évidemment, on ne peut pas dire qu'il y a équivalence entre les deux. On peut simplement dire que l'un infuse l'autre ou inspire certains. Et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas à la fois les assimiler, mais il ne faut pas non plus les séparer. Parce que les séparer serait la même erreur que les assimiler, en réalité. Mais... Enfin, pour répondre à votre question, on est en effet sur une course de vitesse par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est d'aller un petit peu plus loin. C'est qu'il y a quand même, il faut les lire, il y a une volonté, il y a un projet, si vous voulez, de toucher maintenant des secteurs clés et de faire des infiltrations. On l'a vu dans certains secteurs comme le sport, les jeunes, etc. Donc il y a un projet, et ça, il faut savoir l'identifier. Donc ça, c'est intéressant.
Donc le projet de loi, pour terminer en quelques secondes, Jean-Charles Brizard, le projet de loi contre le séparatisme, il a une utilité aussi de ce point de vue-là?
Bien évidemment. Tout ce
que le président nous présentera à l'automne.
L'islam politique en tant que stratégie d'entrisme, de provocation systématique, etc., de notre société, c'est bien sûr le terreau, en grande partie, de cette violence dont on a parlé aujourd'hui. Donc, bien évidemment, c'est lié, il ne faut pas l'oublier, même si, effectivement, fondamentalement, ça ne l'est pas. Mais en revanche, certains se servent de ces fractures que créent, finalement, les provocateurs pour agir.
Merci à tous les trois pour cette discussion, cet échange, ce débat. 19h49, on se retrouve dans quelques instants. On va poursuivre ce débat sur le terrorisme et on va vous raconter le jour où les forces spéciales américaines ont neutralisé Ben Laden. À tout de suite.